Note sur l'épître de Jacques, recueillie dans des réunions d'études. Article du Messager évangélique de 1910. Chapitre 3.
Ne soyez pas beaucoup de docteurs, mes frères, sachant que nous en recevrons un jugement plus sévère, car nous faillissons tous à plusieurs égards. Si quelqu'un ne faillit pas en parole, celui-là est un homme parfait, capable de tenir aussi tout le corps en bride. Voici, nous mettons les morts des chevaux dans leur bouche pour qu'ils nous obéissent, et nous dirigeons ça et là leur corps tout entier. Voici, les navires aussi, qui sont si grands et qui sont poussés par des vents violents, sont dirigés ça et là par un très petit gouvernail, ou que ce soit que le veuille l'impulsion de celui qui les gouverne. Ainsi aussi, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici un petit feu. Quelle grande forêt allume-t-il? Et la langue est un feu, la langue, un monde d'iniquité, est établie parmi nos membres. C'est elle qui souille tout le corps et enflamme tout le cours de la nature et est enflammée par la géhenne. Car toute espèce de bête sauvage et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins se dompte et a été domptée par l'espèce humaine. Mais pour la langue, aucun des hommes ne peut la dompter. C'est un mal désordonné, plein d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à la ressemblance de Dieu. De la même bouche procèdent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne devrait pas en être ainsi. Une fontaine fait-elle jaillir par une même ouverture le doux et l'amer? Mes frères, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus faire de l'eau douce. Qui est sage et intelligent parmi vous, que par une bonne conduite il montre ses œuvres avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez une jalousie amère et un esprit de querelle dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut, mais une sagesse terrestre, animale, diabolique. Car où il y a de la jalousie et un esprit de querelle, là il y a du désordre et toute espèce de mauvaises actions. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Or le fruit de la justice dans la paix se sème pour ceux qui procurent la paix.
Versets 1 et 2.
Ne soyez pas beaucoup de docteurs, mes frères, sachant que nous en recevrons un jugement plus sévère, car nous faillissons tous à plusieurs égards. Si quelqu'un ne faillit pas en parole, celui-là est un homme parfait, capable de tenir aussi tout le corps en bride.
Vu la facilité avec laquelle on peut prêcher aux autres sans que la conscience soit exercée par les vérités que l'on présente, il ne faut pas être beaucoup de docteurs. Celui qui enseigne ou exhorte s'expose à un jugement plus sévère que ceux qui n'enseignent pas, s'il n'est pas conséquent dans sa marche et ses paroles, car nous faillissons tous à plusieurs égards. La vérité doit, avant tout, produire ses effets sur celui qui la présente. Le plus souvent, si la conscience est exercée devant Dieu, à la lumière de sa parole, on se taira plutôt que de prêcher aux autres. Dans ce passage, il ne s'agit pas proprement du don de docteur, car celui qui l'a reçu doit le faire valoir, quitte à mettre sa marche d'accord avec sa responsabilité. Il s'agit plutôt de ceux qui prennent la place de docteurs, de ceux que les Juifs appelaient rabbis. Si leur conscience n'était pas exercée, cela les exposait à l'hypocrisie, comme les pharisiens. Ils s'asseyaient dans la chair de Moïse, ils aimaient à être appelés rabbis, rabbis, mais leurs œuvres étaient en opposition avec leurs enseignements.
Ils liaient des fardeaux pesants et difficiles à porter, et les mettaient sur les épaules des hommes, mais eux, Ils ne voulaient pas les remuer de leurs doigts.
Matthieu 23, verset 4. Les paroles jouent un rôle considérable dans cette épître.
Si quelqu'un dit.
On peut faire la même remarque dans les épîtres de Jean où l'apôtre dit aussi.
Si nous disons.
Et.
N'aimons pas de paroles ni de langue, mais en action et en vérité.
1 Jean 3, verset 18. Si quelqu'un ne faillit pas en parole, il est un homme parfait, capable de tenir tout le corps en bride. Parfait dans la pratique, accompli comme au verset 4 du chapitre 1er et en Matthieu 5, verset 48. Jacques, chapitre 1er, verset 4.
Mais que la patience ait son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien.
Matthieu 5, verset 48.
Vous soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait.
Ce n'est pas la perfection de la position en Christ comme en Philippiens 3, verset 15.
Nous tous qui sommes parfaits.
Et encore moins la perfection dans le sens de ne plus pécher. En tenant la langue, point de départ de tout mal, sous le contrôle de la révélation divine, en exerçant le jugement de lui-même, le chrétien pourra, avec une volonté brisée, se conduire selon la pensée de Dieu. Il sera parfait. Versets 3 et 4.
Voici, nous mettons les mors des chevaux dans leur bouche pour qu'ils nous obéissent, et nous dirigeons çà et là leur corps tout entier. Voici, les navires aussi, qui sont si grands et qui sont poussés par des vents violents, sont dirigés çà et là par un très petit gouvernail, ou que ce soit que le veuille l'impulsion de celui qui les gouverne.
Au moyen d'un mors mis dans la bouche du cheval, celui qui le conduit peut le diriger tout entier et obtenir de lui ce qu'il veut. De même, le nouvel homme, en bridant la langue, dispose du corps tout entier pour accomplir le bien et réaliser l'enseignement de Romains 6, versets 12 à 14.
Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel, pour que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci, et ne livrez pas vos membres au péché comme instruments d'iniquité, mais livrez-vous vous-mêmes à Dieu comme d'entre les morts étant faits vivants, et vos membres à Dieu comme instruments de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce.
Les navires aussi, malgré leurs dimensions et la puissance des vents qui peuvent les détourner de leur route, sont conduits où le veut celui qui tient le gouvernail, objet bien petit en lui-même, mais suffisant pour diriger le vaisseau, malgré les éléments contraires. Il en est de même pour nous. Si nous veillons sur ce petit membre, considéré par Jacques comme la source de tant de mal. Nos manquements sont généralement produits par le mauvais usage que nous faisons de la langue. Versets 5 à 8.
Ainsi aussi, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici un petit feu, quelle grande forêt allume-t-il? Et la langue est un feu. La langue, un monde d'iniquité, est établie parmi nos membres. C'est elle qui souille tout le corps et enflamme tout le cours de la nature et est enflammée par la géhenne. Car toute espèce de bête sauvage et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins se dompte et a été domptée par l'espèce humaine. Mais pour la langue, aucun des hommes ne peut la dompter. C'est un mal désordonné, plein d'un venin mortel.
On peut diviser les 12 premiers versets de ce chapitre en 3 parties. Les 4 premiers versets nous montrent le bien que fait la langue en tant que bridée, afin que l'homme puisse gouverner sa marche tout entière selon les principes de sa nouvelle nature. Au verset 5 à 8, nous avons le mal qu'elle produit, car l'homme naturel ne peut la dompter. Au verset 9 à 12, nous trouvons le bien et le mal qu'elle peut produire chez le même individu. On peut mesurer le cœur de l'homme par l'action de la langue. Elle se vante de grandes choses, et c'est ce que fera, par excellence, le chef de l'apostasie finale. Daniel 7, verset 8.
J'ai considéré les cornes, et voici une autre corne petite, monta au milieu d'elle, et trois des premières cornes furent arrachées devant elle. et voici il y avait à cette corne des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche proférant de grandes choses.
Apocalypse 13, verset 5.
Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes.
La langue est un feu et peut causer d'immenses désastres. C'est un monde d'iniquité. Établie parmi nos membres, elle souille tout le corps, enflamme tout le cours de la nature, est elle-même enflammée par la gêne. En Marc 7, verset 18 à 23, le Seigneur dit que ce qui sort de l'homme souille l'homme, et que cela vient du cœur. Marc 7, verset 18 à 23.
Et il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous ainsi sans intelligence? N'entendez-vous pas que tout ce qui est de dehors entrant dans l'homme ne peut pas le souiller, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre et s'en va dans le lieu secret, purifiant toutes les viandes? Et il dit, « Ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui souille l'homme. Car du dedans du cœur des hommes sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil méchant, les injures, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. »
Jacques, lui, cherche la source du mal produit par la langue dans l'enfer même. C'est un mal désordonné, plein d'un venin mortel. Aucun homme ne peut la dompter. Comparez Romains 3, versets 13 et 14.
C'est un sépulcre ouvert que leur gosier. Ils ont frauduleusement usé de leur langue. Il y a du venin d'aspic sous leurs lèvres, et leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume.
Grâces à Dieu, ce que l'homme naturel ne peut faire, le nouvel homme le peut, parce qu'il est engendré de Dieu. De sorte que nous n'avons aucune excuse pour lâcher la bride à un membre aussi dangereux. Le jugement de nous-mêmes, le brisement de notre volonté, l'action de la parole de Dieu et les épreuves nous rendent capables de brider la langue. Le moyen de dompter la langue, c'est de dompter le cœur.
De l'abondance du cœur, la bouche parle.
Mais Jacques, ne s'occupant que du côté pratique de la vie chrétienne, parle des effets et non des causes. Il reconnaît les fruits de la mauvaise nature, mais il veut les fruits de la nouvelle, parce que nous sommes engendrés de Dieu pour être une sorte de prémisse de ses créatures. Nos membres doivent être entièrement soumis au nouvel homme. Versets 9 à 12.
Par elle nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à la ressemblance de Dieu. De la même bouche procède la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne devrait pas en être ainsi. Une fontaine fait-elle jaillir par une même ouverture le doux et l'amer? Mes frères, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues?
De l'eau salée ne peut pas non plus faire de l'eau douce.
Par la langue nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à la ressemblance de Dieu.
Bénir le Seigneur et Père est un terme très général. Dieu est appelé ainsi en rapport avec les hommes sur la terre, sans que cela implique la relation dans laquelle la grâce a placé le racheté par l'œuvre de Christ. Éphésiens 4, verset 6.
Il y a un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tout et partout et en nous tous.
Dieu est le Père ici dans le sens de Créateur. Malachie 2, verset 10.
N'y a-t-il pas pour nous tous un seul Père? Un seul Dieu ne nous a-t-il pas créés?
Ésaïe 64, verset 8.
Or maintenant, Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, tu es celui qui nous a formés, et nous sommes tous l'ouvrage de tes mains.
Ayant encore en nous la vieille nature, nous sommes exposés à prononcer, avec la même bouche, la bénédiction et la malédiction. Une telle contradiction ne devrait pas exister. De l'eau amère et de l'eau douce ne peuvent jaillir d'une même fontaine. Le même arbre ne peut produire des fruits différents. De l'eau salée ne peut faire de l'eau douce. Puisque la corruption de la vieille nature a nécessité une régénération, la nouvelle source seule doit jaillir. Nous n'avons aucune excuse pour qu'il en soit autrement. On remarquera, au verset 9, que le fait de maudire l'homme est d'une gravité exceptionnelle, parce qu'il a été créé à la ressemblance de Dieu. On ne peut bénir Dieu et maudire l'œuvre de ses mains, car l'homme est cela, malgré l'état de dégradation dans lequel il est tombé. La crainte de Dieu tient toujours compte de ce qui est sorti de ses mains. C'est ce que fit Michel l'archange, en ne proférant pas de jugement injurieux contre Satan. Il reconnaissait en lui la créature supérieure de Dieu et laissait à Dieu le soin de le juger. Verset 13.
Qui est sage et intelligent parmi vous, que par une bonne conduite il montre ses œuvres avec la douceur de la sagesse.
En méditant l'épître de Jacques, on trouve plus de suite qu'on ne le suppose à la simple lecture. Le grand sujet du chapitre 2, c'est la foi et les œuvres. La foi se montrant par les œuvres. Ici, ce sont les œuvres se montrant par la conduite.
Qui est sage et intelligent parmi vous? Que, par une bonne conduite, il montre ses œuvres avec la douceur de la sagesse.
Or, le grand agent d'une bonne conduite chrétienne, c'est la langue. Cette conduite, on le voit tout du long, c'est la conduite de chaque jour. On ne peut pas prétendre faire les œuvres de Dieu et avoir une conduite qui ne soit pas en rapport avec ses œuvres, avec cette activité. Si, par exemple, j'ai le cœur plein d'amertume, d'animosité, de pensées querelleuses, et que je montre au dehors beaucoup d'activité pour le service du Seigneur, toute cette activité est réduite à néant par ma conduite. Il faut que mes paroles soient d'accord avec mes œuvres, et c'est en cela que nous sommes jugés d'une manière si profonde par l'épître de Jacques. Cette épître, nous l'avons déjà vu, ne traite pas de principe, mais d'une manière continue de pratique, basée, il est vrai, sur le principe que nous avons une nouvelle nature, principe dont Jacques déduit toute une série de conséquences pour la vie journalière. La douceur de la sagesse. Cette expression va très loin, puisque c'est Christ qui est la sagesse. La douceur est un mot particulier, le même qu'au chapitre 1, verset 21.
C'est pourquoi, rejetant toute saleté et tout débordement de malice, recevez avec douceur la parole implantée qui a la puissance de sauver vos âmes.
Elle est, dans ces passages, l'empressement à apprendre, à recevoir d'un autre. L'homme sage sait qu'il a à apprendre, à recevoir, et ne pense pas avoir toujours à donner. Verset 14.
Mais si vous avez une jalousie amère et un esprit de querelle dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité.
On pourrait se contenter de l'apparence seule, sans réalité, or c'est ce qu'il ne faut pas. La jalousie amère, l'amertume de la jalousie, est le contraire de la douceur de la sagesse. La vérité a toujours un but dans son application à notre cœur, c'est de le mettre à nu devant Dieu.
Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité.
La vérité est précisément ce que possède le chrétien. Ayant la nature de Dieu, il possède la vérité qui est cette nature, c'est-à-dire ce que Dieu est, ce qu'il veut, pense et dit. Il ment à la vérité, celui qui cherche à cacher ce qu'il y a au fond de son cœur, et la vérité n'est pas en lui. On peut mentir à la vérité pour un temps, mais ces choses, jalousie, esprit de querelle, etc., ne peuvent rester longtemps cachées. Ce sont des racines d'amertume qui poussent en haut, arrivant tôt ou tard à la lumière, et portent leurs fruits. Souvent, on est tout étonné de voir naître des querelles, se manifester de mauvais sentiments, se produire des parties entre chrétiens, s'allumer un véritable incendie. Cela provient de ce que l'on n'a pas veillé à temps sur l'état de son cœur. Le mal s'accumule, la conscience s'endurcit, le cœur s'éloigne de Dieu, enfin le mal est consommé, il n'y a plus de remède. cette tendance à couvrir, à voiler, à déguiser ses véritables sentiments est appelée au verset 15 « sagesse terrestre, animale, diabolique ». Elle est tellement l'essence de l'homme naturel que l'un des plus grands diplomates disait « La parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée ». Ne jamais montrer ce que l'on a dans le cœur, telle est la sagesse de l'homme naturel. Elle est diabolique, car elle a pour auteur le père du mensonge. Il est dit au verset 6 que la langue est enflammée par la géhenne. Le mot « animal » employé pour la sagesse est le même que l'on trouve en 1 Corinthiens 2, verset 14.
Or l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies.
C'est l'homme conduit seulement par son âme créée, sans l'enseignement et la puissance de l'Esprit. Car l'homme qui possède une nouvelle nature a le Saint-Esprit comme puissance de sa vie. Versets 16 et 17.
Car où il y a de la jalousie et un esprit de querelle, là il y a du désordre et toute espèce de mauvaises actions. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie.
Ces deux versets montrent le contraste qui existe entre la sagesse terrestre, animale, et la sagesse d'en haut. En dépit de toute sa dissimulation, la sagesse humaine, un jour ou l'autre, se démasque. Elle conduit au désordre et à toute espèce de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure. La pureté est proprement l'absence de péché chez l'homme par le lavage dans le sang de Christ. Ce mot de pureté a le même sens en 2 Timothée 2, verset 22.
Mais toi, fuis les convoitises de la jeunesse et poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur.
Puis, en acte 15, verset 9,
ayant purifié leur cœur par la foi.
En Hébreux 10, verset 22,
approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'eau pure.
En 1 Pierre 1, verset 22,
ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité.
Un cœur pur est toujours un cœur qui a été purifié. C'est ce que nous trouvons dans ce passage.
Bienheureux ceux qui ont le cœur pur.
Matthieu chapitre 5. Du moment que quelqu'un a reçu la nature divine, il est pur. Le premier caractère de la présence de cette nature, c'est la pureté. Un cœur pur est soumis à l'action de la parole. Ainsi, dans le passage déjà cité,
« Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. »
Le cœur a commencé par être amené devant Dieu, par se juger, sans rien cacher à Dieu. Puis, lavé dans le sang de Jésus, il est rendu pur. Après cela, il continue pratiquement à se juger sérieusement dans la lumière de Dieu. Cette sagesse d'en haut est donc premièrement pure. C'est son premier caractère. Nous devons en avoir fini avec le péché. Elle est, en second lieu, paisible, modérée, traitable. Ces trois caractères vont ensemble et sont le contraire de ce que nous verrons au chapitre 4. Paisible, elle n'élève pas la voix dans les rues. Le contraire se montre au verset 1 du chapitre 4.
D'où viennent les guerres et d'où les batailles parmi vous? N'est-ce pas de cela de vos voluptés qui combattent dans vos membres?
Mais la pureté avant tout. On pourrait avoir un esprit paisible et n'en avoir pas fini pratiquement avec le péché. Être paisible ne veut pas dire que l'on marche avec le mal. Quelqu'un de paisible reçoit volontiers des autres. Il accepte ce qu'ils disent. Il est traitable. il ne garde pas sa propre pensée, quoique les autres puissent lui dire. L'homme intraitable n'accepte pas que d'autres le combattent ou le contredisent, il ne veut pas abandonner ses idées, qu'il décore trop facilement du nom de principe, et proteste qu'il ne peut abandonner ses principes. Quant au fond, il ne pense qu'à suivre ses propres pensées. Ce sont des choses sérieuses qui prêtent beaucoup à la méditation devant Dieu, et nous avons à nous demander quelle est la sagesse que nous manifestons. En troisième lieu, cette sagesse d'en haut est
pleine de miséricorde et de bons fruits.
Mais, comme nous l'avons dit, tous ces termes prêtent moins à des explications qu'à la méditation devant Dieu. Sans partialité. La partialité fait acception de personne, surtout dans un esprit querelleur. Sans hypocrisie. C'est le contraire de la sagesse humaine. Notons que les divers caractères de la sagesse d'en haut, indiqués ici au nombre de 7, peuvent se résumer en un seul, l'amour. Verset 18.
Or, le fruit de la justice dans la paix se sème pour ceux qui procurent la paix.
Il y a deux fruits principaux de la justice. En Hébreux 12, verset 11,
la discipline rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle.
Le premier fruit est donc la paix. Nous trouvons le second en Romains 6, verset 22.
Vous avez votre fruit dans la sainteté.
La justice produit ces deux fruits, mais il s'agit ici de la justice pratique, que l'on peut définir par absence de péché dans nos voies. Être juste devant Dieu, c'est n'avoir aucun péché devant lui, par la grâce. Ici, c'est s'appliquer à être tel pratiquement. Or, le premier fruit pratique de la justice, c'est la paix, non pas positivement devant Dieu, mais parmi les hommes. On procure la paix. On a
les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix.
Un tel homme apporte avec lui la paix, et non les querelles, tandis que la sagesse humaine les amène aussitôt.
Se sème pour ceux qui procurent la paix.
Il y a là une comparaison avec les semences, le blé surtout, que l'on sème et qui porte du fruit plus tard. Nous récoltons la paix et la sainteté. Ce deuxième fruit de la justice, la sainteté, il ne faut pas l'oublier, est la séparation du monde pour être à Dieu. On remarquera que les premiers versets du chapitre 4 sont la suite directe de la fin du chapitre 3. Nous y trouvons les deux choses qui caractérisent le cœur naturel, la violence et la corruption. Ces fruits se manifesteront si nous ne nous jugeons pas nous-mêmes devant Dieu, nous appliquant à marcher dans les voies de la sagesse d'en haut.